Bonjour à toutes et à tous, il est 14h à Paris, midi en temps universel.
Diane Berger.
C'est RFI Midi, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Avec donc d'abord un journal et Israël qui élargit son offensive militaire dans la bande de Gaza. L'enclave palestinienne déjà meurtrie par des bombardements violents ces derniers jours. Nous serons en direct avec notre correspondant Michel Paul dans quelques instants. J-1 avant la présidentielle en Roumanie. Les électeurs doivent choisir entre un candidat libéral pro-Union européenne et un candidat d'extrême droite eurosceptique qui pourrait bien marquer des points dans les milieux agricoles. Blackout à Port-au-Prince, toute une partie d'Haïti est privée d'électricité depuis bientôt une semaine. Et puis la disparition d'un météore dans le monde du rap, Wernois est mort. Le numéro 1 des ventes d'albums en France n'avait que 31 ans.
RFI Midi.
Ensuite, ce sera le journal des sports de Christophe Diremzian, puis notre invité, le politologue Antoine Basbous. Nous reviendrons avec lui sur les enjeux du sommet de la Ligue arabe en cours en ce moment à Bagdad. Vous retrouverez aussi la chronique transport dédiée cette semaine au Groenland. Et puis nous irons à Cannes, où les films d'animation ont la cote, vous l'entendrez. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se dit très alarmé face aux dernières informations données par l'armée israélienne. Elle poursuit en effet ses préparatifs pour une offensive terrestre massive à Gaza. L'opération elle-même n'a pas encore été lancée, mais elle semble imminente. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Diane, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI à Jérusalem. Que sait-on de la situation ?
Mais écoutez, en cette mi-journée, on fait état de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza, à Gazaville, à Khan Younes, également à Beit Lahia et Shajaya. Des tracts ont également été dispersés avec en image la traversée biblique de la mer Rouge et ses mots en arabe, « Gazaoui, l'armée israélienne arrive ». Hier soir, d'autres tracts avaient encouragé les habitants à évacuer vers le sud. L'armée israélienne a renforcé son dispositif autour de Gaza et s'est emparée de points stratégiques, explique Amos Harel, le commentateur militaire du quotidien Haaretz. L'offensive terrestre a été renforcée, mais elle est encore très limitée, ajoute-t-il. Israël avait menacé de lancer l'opération Chariot de Gédéon dès la fin du périple de Donald Trump dans les pays du Golfe, et on ne sait pas à quel point cette initiative israélienne est coordonnée avec l'administration américaine, mais Israël continue de souligner que le but de l'opération est de vaincre le Hamas et de libérer les otages.
Et Michel, à Doha, les négociations pour une trêve se poursuivent.
Oui, visiblement, Israël espère que la pression militaire, ou plus exactement la menace de cette nouvelle offensive, va permettre de débloquer un tant soit peu la situation. Aucune information véritable ne filtre à ce stade sur le déroulé des pourparlers, mais il semble que des pressions très fortes soient exercées sur les deux parties, Israël et le Hamas, pour faire preuve de plus de flexibilité.
Merci beaucoup Michel Paul en direct de Jérusalem pour RFI. Il y a donc ces négociations à Doha, il y a aussi aujourd'hui un sommet de la Ligue arabe à Bagdad. Depuis la capitale irakienne, l'Égypte appelle Donald Trump à faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. On en parlera juste après le journal des sports avec notre invité. La réunion qui a eu lieu hier entre délégations ukrainiennes et russes à Istanbul a été extrêmement importante selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. De fait, seul un échange d'un millier de prisonniers ukrainiens contre un millier de prisonniers russes a été acté. Le Kremlin refuse toujours le cessez-le-feu demandé par Kiev et par les Occidentaux après 3 ans de guerre en Ukraine. Depuis Tirana, en Albanie, où il est en déplacement, le président français Emmanuel Macron s'est dit convaincu que les États-Unis vont intervenir.
Les propositions de cessez-le-feu, dont je rappelle que c'est une initiative américaine, n'ont pas été respectées par le président Poutine et ses armées. Et donc les choses sont simples. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens depuis le premier jour. Là-dessus, la proposition du président Poutine a été de dire « Rencontrons-nous à Istanbul. » Le dimanche, accord du président Zelensky. Et aujourd'hui, qu'avons-nous ? Rien. Et donc je vous le dis, face au cynisme du président Poutine, je suis sûr même que le président Trump, soucieux de la crédibilité des États-Unis d'Amérique, va réagir. Parce qu'en fait, la proposition de cesser le feu, la proposition de rencontre à haut niveau, ce sont des propositions américaines. Elles sont importantes. Elles ne peuvent pas avoir une telle réponse.
Et en Ukraine, le bilan ne cesse de s'alourdir. Une attaque de drone contre un minibus de civils a fait 9 morts et 4 blessés ce matin. On se rend maintenant au sud de l'Ukraine, en Roumanie. Le candidat nationaliste et eurosceptique George Simion ferme ses comptes TikTok et Facebook à la veille du second tour de la présidentielle qui se déroule dans un climat tendu. Rappelons que le premier tour avait dû être annulé et reporté en urgence une première fois à l'automne sur fond d'ingérence russe. Les électeurs doivent donc choisir demain entre Nikou Jordan, candidat indépendant pro-Europe, et George Simion, qui pourrait gagner des points chez les agriculteurs. Plus d'un Roumain sur cinq travaille dans ce secteur. Notre envoyé spécial Muriel Paradon est allé à leur rencontre.
À Balachou, un village à une heure de Bucarest, on peut facilement tomber sur un troupeau de chèvres ou de moutons, comme celui de Stéphane, un vieil homme au visage buriné. Il ne sait pas pour qui il va voter ce dimanche à la présidentielle, mais il espère un changement.
Ceux qui vont voter doivent choisir quelqu'un de bien, parce qu'on est à terre. L'élevage, ça ne marche pas. La peau des moutons, elle ne vaut plus rien. Et la laine coûte trop cher à couper.
Un peu plus loin, dans un champ, des hommes empilent des ballots de foin sur une charrette tirée par un cheval. Paul, 24 ans, est éleveur. Il ne vit pas de son travail.
On a zéro revenu. Je me nourris grâce à mes animaux et leur lait. Mais ils ne me rapportent pas d'argent. Je dois travailler chez des gens au village pour gagner un peu.
La Roumanie est dans l'Union européenne, mais ses petits agriculteurs disent ne pas en tirer beaucoup de bénéfices. Petru a 57 ans.
On a rejoint l'Union européenne, mais nous, on est un peu la dernière roue du carrosse. Les subventions européennes, on en touche très peu. Il n'y a pas de grands élevages ou de grandes productions ici. Mais ce qui me semblerait juste, c'est que tous les pays soient traités de manière égale au sein de l'Union européenne.
Petru ira voter comme un dernier espoir, dit-il, pour le candidat d'extrême droite, George Simion, à l'élection présidentielle. Ce dernier a promis de défendre les intérêts des Roumains au sein de l'Union européenne. Muriel Paradon, Bucarest, RFI.
RFI Midi. Il est 8h07 à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, qui a passé la nuit dans le noir, comme plusieurs autres régions du pays, privée d'électricité. À l'origine de cette coupure massive, un mouvement de protestation initié par des habitants de Mirebalais qui ont pris le contrôle de la centrale hydroélectrique de Péligre, cœur du système électrique national. Ils dénoncent l'abandon de leur ville aux gangs armés. Mais cette coupure paralyse aujourd'hui presque tout le pays. Notre correspondant à Port-au-Prince, Peterson Luxama, a pu le constater.
Depuis plusieurs jours, Rebecca, étudiante à l'Université d'État d'Haïti, est obligée de s'adapter.
Cette coupure de courant m'affecte grandement dans mes études. Cela a rendu mon apprentissage très difficile. Si avant je pouvais suivre un cours chez moi, maintenant je suis obligée de me déplacer vers un autre endroit, plus ou moins alimenté en courant alternatif.
Plus ou moins alimenté en électricité.
Même réalité pour Mickelson, étudiante en droit, qui ne peut plus avancer dans ses projets.
Nous vivons une situation d'insécurité grandissante qui nous empêche, nous, les étudiants, de nous rendre dans les espaces où les cours sont dispensés, ce qui a conduit les responsables à envisager des cours en ligne. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas suivre ces cours, nous ne pouvons même pas recharger nos téléphones. Ce blackout nous affecte profondément et vient aggraver la situation déjà difficile que vivent de nombreux étudiants dans le pays.
Augmenter situation difficile chaque étudiant dans le pays.
En plus des étudiants, cette coupure d'électricité affecte aussi d'autres simples citoyens, à l'image de Colson, Kwasi Adelma.
À cause de la coupure, je suis obligé de payer pour recharger mon téléphone. Cette situation nous affecte énormément et nous demandons à l'État d'agir rapidement afin de rétablir l'électricité.
Insécurité, coupure de courant, le cauchemar des Haïtiens se poursuit et les autorités gardent le silence. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et puis le rap français est en deuil. L'artiste Werenoi est mort à l'âge de 31 ans. Son décès a été annoncé aujourd'hui par son producteur. De son vrai nom, Jérémy Bana Owona, le jeune homme d'origine camerounaise, avait connu un succès fulgurant, sacré révélation masculine de l'année à la cérémonie des flammes il y a 2 ans. Numéro 1 des ventes d'albums en France, 2 années de suite. On écoute son titre « Diamant noir ».
Skull. assis sur un banc, je suis dans un bureau avec des plans. Mais c'est pas l'OBG, je suis sur des coups à 700 l'aime. Avec des frérots de Belgique, il faut qu'une minute pour compter 12 balles. Il faut qu'une bécane pour que tu crées Ouzbek. Ils font des messes parce qu'on les pousse pas. Elle fait trop le playback, c'est qu'on les pousse pas. J'évolue mais je reste toujours le même connard. Toujours une mitraillette à l'Hezbollah. Je leur dis toujours que je n'ai pas de lové. Alors qu'au poignet j'ai un Urus volé. Tu me fais mal, je t'envoie des ego. Je te tue pour un radis ego. Je disparais comme une fausse société dans les paradis fiscaux. Go, go, go. Comme les gitans, on ne se mélange pas.
Diamant noir de Werenoi, le rappeur est décédé, on le rappelle, à l'âge de 31 ans. Après l'actualité internationale, place maintenant au journal des sports. Bonjour Christophe Diremsian.
Bonjour Diane.
Football, dernière journée de Ligue 1, dernière place à attribuer pour l'Europe, mais aussi dernière chance d'éviter la relégation pour certains clubs.
Oui, c'est jour de solde avant de fermeture de la boutique pour les vacances, enfin pas pour tout le monde. Dans la vitrine, il reste un strapontin pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, un billet garanti pour la Ligue Europa et un autre pour la Ligue Conférence. Trois équipes lorgnent l'accessite pour l'élite continentale, Nice, Lille et Strasbourg. Les Alsaciens reçoivent Le Havre, actuel barragiste, et qui peut encore osciller en une soirée de la 14e place, synonyme de maintien définitif, à la 17e qui les enverrait en Ligue 2. Le sort des Normands ne dépend pas que d'eux. Saint-Étienne, Reims et Nantes joueront aussi leur avenir au même moment. Et l'entraîneur havrais Didier Digard sans doute. Certains auront un œil sur le match et l'autre sur leur téléphone portable pour suivre les concurrents.
Je pense que sur le banc, oui, il y aura certainement des gens du staff qui vont se soucier de ça. Pas moi parce que un peu trop focus sur l'équipe et sur le match, donc j'ai pas trop le temps d'y prêter attention. Mais forcément, c'est potentiellement des scénarios qui peuvent jouer ou non en notre faveur. Et en fonction de notre match, eh bien, on pourra peut-être ajuster. Après, il y a aussi un constat très simple, c'est que si on gagne ce match, on n'aura pas besoin de se soucier de ce qui se passe sur les autres terrains pour au minimum être barragiste.
Didier Digard, Strasbourg-Le Havre, 19h temps universel, comme tous les autres matchs de cette soirée multiplex. Lens-Monaco, Nice-Brest, Lille-Reims, Marseille-Rennes, Lyon-Angers, Saint-Étienne-Toulouse, Nantes-Montpellier et PSG-Auxerre. Les Parisiens en profiteront pour recevoir officiellement leur trophée de champion.
Pour les Lyonnaises, c'est fait depuis hier. Elles ont remporté une nouvelle fois le championnat féminin.
Et oui, les Fenottes restent les reines en première ligue, le nom de la première division féminine, en battant à domicile leurs éternels rivales du Paris Saint-Germain, 3-0 en finale des play-offs. C'est le 18e titre, le 4e d'affilée, et c'est un beau cadeau de départ et d'anniversaire pour Eugénie Le Sommer, l'attaquante historique de l'OL, âgée de 36 ans demain, et qui quitte le club après 15 saisons avec satisfaction et émotion.
C'est une belle victoire, c'est extraordinaire et je pense que c'est mérité au vu de notre saison. Et je suis contente de finir sur ça aussi. J'ai été très touchée par tous les hommages, tous les gens qui m'ont envoyé des messages. C'était pas facile ces trois derniers jours parce que j'ai eu beaucoup de moments d'émotion, mais il fallait rester focus sur le match. C'était pas facile, mais le plus important c'est la victoire et de finir là-dessus parce que j'aurais été vraiment pas bien si ça avait pas été le cas. Donc voilà, je remercie aussi mes coéquipiers pour ça.
Eugénie Le Sommer, 314 buts et 33 titres remportés en 15 ans sous les couleurs lyonnaises.
En Angleterre, juste avant l'essentiel de la 37e et avant-dernière journée de Premier League, demain, place à la finale de la Coupe.
Avec Manchester City, finaliste 2024 et seulement 6e de Premier League ce matin, les Sky Blues affrontent Crystal Palace et tiennent là leur dernière chance de remporter un trophée cette saison aux dépens d'un adversaire dénué de tout titre majeur. Coup d'envoi de cette finale à Wembley à 15h30, temps universel. Hier soir, deux matchs avancés donc de cette 37e journée de championnat. Chelsea a battu Manchester United 1-0 et victoire d'Aston Villa sur Tottenham 2-0.
Le tennis maintenant avec la finale féminine du tournoi de Rome.
Et de quoi assurer l'ambiance au Foro Italico puisqu'elle va mettre aux prises l'italienne Yasmin Paolini, numéro 5 mondial, et l'américaine Coco Gauff. Rome n'a pas vu gagner une italienne depuis exactement 40 ans, ça peut motiver. Le coup de tonnerre s'est produit la nuit dernière en NBA. Les tenants du titre, les Celtics de Boston, ont été éliminés en demi-finale de conférence Est par les Knicks de New York, vainqueurs 119-81. Pour un total de 4 victoires à 2, la finale les opposera aux Indiana Pacers. Et puis c'est sans doute le combat de la dernière chance pour Tony Yoka. Le boxeur français remonte sur le ring ce soir à Paris après bientôt 18 mois d'absence et 3 défaites d'affilée pour affronter le russe Arslan Yaliev chez les lourds. L'objectif étant surtout de reprendre confiance pour s'assurer éventuellement une suite de carrière.
C'était Christophe Diremsian pour le Journal des Sports. On l'évoquait il y a quelques minutes, Israël intensifie donc son offensive contre Gaza. L'enclave palestinienne au cœur des préoccupations à Bagdad aujourd'hui. Les représentants des pays membres de la Ligue arabe sont réunis en ce moment en Irak pour un sommet dédié aux différentes crises régionales et donc notamment à la situation à Gaza. On décortique les enjeux de ce sommet avec notre invité Antoine Basbous. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes politologue associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Cette nouvelle réunion de la Ligue arabe aujourd'hui a lieu un peu plus de 2 mois après un sommet au Caire où avait été adopté un plan de reconstruction de Gaza, un projet qui était alternatif à celui du président Trump. Aujourd'hui, alors qu'Israël renforce son offensive, ce projet est-il seulement audible sur la scène internationale aujourd'hui ?
Écoutez, la réalité des faits, c'est que les infrastructures à Gaza sont systématiquement détruites et que la reconstruction proposée par le sommet arabe du Caire il y a quelques mois n'a pas de portée, n'a pas d'effet sur la réalité. Ce qui fait que Gaza devient invivable. Et même si demain la guerre s'arrête, comment voulez-vous que les gens puissent vivre dans un territoire où il n'y a plus d'hôpitaux, d'écoles, d'eau et d'électricité? Donc tout cela fait que la version dure, c'est-à-dire le transfert des Palestiniens, a plus de chances que leur maintien sur place.
Et tout cela implique d'abord, de toute façon, que la guerre s'arrête à un moment. Depuis Bagdad, l'Égypte a appelé Donald Trump à faire pression pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Mais est-ce que, avec ce genre de message, la Ligue arabe a seulement une chance d'être entendue ? Est-ce que ce genre d'appel peut fonctionner ?
Je crois que la Ligue est morte, mais pas enterrée. Elle commémore c'est-à-dire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une machine à créer de la parole, des refrains, mais sans aucune portée sur la réalité. L'appel à deux États, ça fait combien d'années que le refrain est répété, mais aucune démarche constructive n'a abouti dans ce sens-là, dans cette direction. Loin de là, la Ligue des États arabes commémore par ce sommet à Bagdad ses 80 années d'existence. Et il se tient dans une capitale qui est la dernière de la région sous influence iranienne. C'est pourquoi peut-être on a vu que les absents, les dirigeants, les chefs d'État absents sont plus illustres que ceux qui sont présents.
Oui, il y a un certain nombre de représentants de pays du Golfe qui ne sont pas venus.
Oui, le Golfe et d'ailleurs, même le voisin jordanien, le roi de Jordanie, n'est pas là. Le plus illustre qui est présent, c'est le président Sisi et le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Cela dit, cette Ligue arabe n'a jamais eu une réelle portée sur l'actualité du moment. Donc,
il n'y a donc rien à attendre de ce sommet ? Rien de concluant depuis en aboutir ?
Je ne crois pas que ce sommet dérogera au précédent et portera des fruits. Simplement, sa faible représentativité, le fait qu'il se tienne dans une capitale sous influence iranienne, eh bien, ça l'affaiblit encore davantage. Et puis, le nombre de crises dans les pays arabes est innombrable. Il y a Gaza, forcément, il y a la Cisjordanie également, mais aussi le Soudan, la Libye, le Yémen, la Syrie. Donc, pour plein de raisons, ce sommet ne portera pas de fruits.
Oui, et justement, vous avez mentionné le cas de la Syrie. Le dirigeant syrien par intérim, le président Al-Shara, avait été invité, mais il est absent. L'hypothèse de sa venue avait divisé en Irak, car il est surtout connu comme un ancien djihadiste. Y a-t-il toujours, dans le monde arabe, une sorte de méfiance entre donc les pays de la région et le nouveau pouvoir à Damas ?
Les pays arabes ont changé de pied. Ils sont toujours, beaucoup de pays sont méfiants par rapport au passé djihadiste de M. Shara, mais avec l'absolution qui a été accordée par MBS le Saoudien, avec le président américain, la venue de Shara à l'Élysée à Paris, tout ça fait que son image est en train d'être recréée. Mais malgré cela, il y a beaucoup de pays qui restent méfiants à son égard. Il n'a pas pu se rendre à Bagdad puisque ses ennemis sont les Iraniens, les premiers, c'est-à-dire les soutiens d'Assad. Et en plus, il est poursuivi par des tribunaux irakiens pour son passé djihadiste en Irak. Donc, oui. Pour toutes ces raisons, il a délégué son ministre des Affaires étrangères et n'a pas pris le risque de se présenter à Bagdad.
Mais bien, merci beaucoup Antoine Basbous pour ces explications. Vous êtes, je le rappelle, politologue associé chez Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Merci beaucoup, monsieur.
Merci à vous.
Nous vous parlons beaucoup ce week-end des élections en Roumanie et en Pologne. Les électeurs sont appelés aux urnes dans un troisième pays d'Europe ce week-end. Au Portugal, c'est demain, dimanche, jour de législative, les troisièmes en trois ans. L'avantage semble être du côté de l'Alliance démocratique sortante, mais elle pourrait bien ne pas atteindre la majorité absolue. Dans le même temps, l'extrême droite du Chega, la troisième force politique du pays, devrait encore conforter ses scores. Marilyne Darcy s'est rendue à Elvas, en Alentejo, l'un des fiefs du parti.
Dans la jolie ville d'Elvas, près de la frontière espagnole, André Ventura est venu se livrer à la confrontation sans danger de la rue. Accolade, selfie, claque dans le dos, le leader du Chega adore l'exercice obligé.
La circonscription de Porto Alegre nous a donné des résultats incroyables en 2024. Ici, c'est la plus grande victoire du pays. Je me devais de dire aux électeurs que je ne les oublie pas. Je sais ce qu'ils vivent. Mais il y a un candidat qui va les défendre et un parti, le Chega, qui va les défendre contre un véritable harcèlement territorial de la part des communautés de Ziganes.
Elvas, en 2024, a voté à 36,5% pour le Chega, score record que le parti veut répéter. Les thèmes sont classiques, immigrés illégaux, corruption et Ziganes subventionnés. Les militants sont conquis, comme Lourdes Cabezo, venue avec sa fille et sa petite-fille.
Tant d'années passées à cotiser pour ces gens qui ne veulent rien faire. Nos retraites sont misérables. Nous, on veut vivre aussi bien qu'eux et les Tziganes. Le gouvernement soutient ceux qui ne travaillent pas. Alors moi, je vais voter Ventura.
Les 500 mètres de l'action de rue jusqu'au jardin municipal se font au pas de charge. Un jardin occupé plutôt par les participantes à une course suivie d'un déjeuner offert par la mairie. Le maire d'Elvas, José Rondon Almeida, sous étiquette indépendante, après avoir été longtemps membre du Parti Socialiste, dénonce l'opportunisme du Chega.
On a vu apparaître quelqu'un qui dit qu'il va trouver des remèdes à tous les maux de la société. André Ventura se sert du mécontentement des gens et dit ce que les gens ont envie d'entendre pour attirer leur voix.
Crédité de 18 à 20% des voix pour le scrutin du 18 mai, le parti anti-système et populiste consoliderait sa position de troisième force politique du pays. Une ascension fulgurante pour un parti créé en 2019. Alors que le Chega a dû finir la campagne électorale privée de son leader, victime de malaise, les sondages montrent une avancée du Premier ministre sortant, Luis Montenegro, mais sans majorité absolue. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site RFI.fr.
Vous écoutez RFI Midi.
Le Groenland à la tête du Conseil de l'Arctique. Depuis lundi, le territoire préside cette organisation qui regroupe 8 pays du Grand Nord, dont la Russie, les États-Unis et le Canada. Pour le chercheur à l'école de guerre de Paris, Mika Blujon-Mered, le Groenland va en profiter pour devenir un modèle en termes de transport écologique. Il répond aux questions de Marina Mielzarek.
Mika Blujon-Mered, bonjour.
Bonjour.
Vous dites, vous, c'est un grand moment dans l'histoire du Groenland et du Grand Nord.
Ah oui, c'est un grand moment parce que vous avez un groupe de travail spécifique sur la question des échanges et en fait du transport, notamment aérien. Beaucoup des échanges se font par avion, tout simplement. Il n'y a pas de route ou très peu de route, etc. Et même le bateau, c'est pas vraiment avec ça qu'on va aller du Groenland jusqu'en Norvège, par exemple. Donc dans ce contexte-là, il y a une vraie volonté de se servir de cette réalité de l'Arctique pour en fait bâtir d'autres modèles de transport avec soit des carburants d'aviation durable à partir d'hydrogène, à partir d'électricité renouvelable en fait.
C'est pour cela que le Groenland s'est équipé de 3 nouveaux aéroports.
Le Groenland avait besoin de 3 nouveaux aéroports, d'une part pour 1 se moderniser, Deuxièmement, pour pouvoir avoir des aéroports à différents endroits de son territoire pour développer différents types de tourisme. Un tourisme plutôt d'affaires au niveau de la capitale, Nuuk. Ensuite, troisième aéroport qui ouvre là aussi en 2026. Ça se passe là à Qaqortoq. Donc on est dans le sud du pays. Et le sud du pays, c'est pas le Grand Arctique avec les ours blancs, etc. Plutôt autour d'un tourisme durable, une agriculture durable également localement. Et là, il y a un vrai clash entre ce que les Américains, par exemple, voudraient faire, ce que les Chinois, un temps, ont voulu faire, c'est-à-dire développer plutôt le secteur des minerais, notamment le secteur de l'uranium, des terres rares, là où les Groenlandais préféraient développer du tourisme et l'agriculture durable. Et il faut des nouvelles infrastructures, parce que de fait, sinon, c'est plus du tourisme vert, c'est du tourisme, pour le coup, de l'apocalypse.
Et on l'a vu avec les bateaux de croisière, auxquels les Groenlandais ont dit « Vous venez chez nous, mais pas des gros paquebots pour devenir comme Venise et après devoir interdire. »
C'est-à-dire l'électrification par batterie. Aujourd'hui, on a déjà 70% de l'électricité au Groenland qui est produite de manière verte, c'est-à-dire décarbonée. Et au-delà de ça, développer peut-être des produits aussi à l'export, notamment des carburants d'aviation durable ou de l'ammoniac vert ou d'autres choses pour le maritime, pour décarboner au-delà du Groenland. Tout ça, c'est des vecteurs pour le Groenland d'indépendance.
Vous êtes en train de nous dire que le Groenland est à l'avant-garde.
Mais complètement, et en fait, ça fait
et
longtemps.
Et un modèle peut-être aussi pour les pays africains. On peut l'imaginer avec le solaire, par exemple,
bien
sur le continent africain.
Le Groenland veut devenir indépendant du Danemark. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte de décolonisation, qui, en effet, est assez similaire à ce qu'on peut imaginer sur pléthore de populations en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine même et ailleurs, l'idée, ça va être de dire, voilà, on peut être une solution pour le reste du monde, on peut générer assez de revenus.
Mika Bujon-Mered, merci beaucoup.
Merci à vous.
La chronique transport qui était signée par Marina Mielzarek. Le Festival de Cannes bat son plein dans le sud-est de la France. 78e édition du plus grand événement du cinéma international. Ce samedi, notre envoyée spéciale Sophie Torlotin braque ses projecteurs sur les films d'animation, des œuvres loin d'être réservées aux enfants.
70 ans après sa présence à Cannes comme président du jury, Marcel Pagnol est de nouveau à l'honneur sur la croisette. Héros et sujet d'un film d'animation, Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chaumet, projeté ce samedi. Ce 78e festival fait la part belle au cinéma d'animation. Trois longs-métrages figurent en sélection officielle et les sections parallèles ne sont pas en reste.
T'es perdu ?
Suivez quelqu'un.
Mais maintenant, t'es perdu.
Déjà, de l'animation pour adultes, ça s'est pas encore assez démocratisé.
Julien Règle, le délégué général de la quinzaine des cinéastes, a sélectionné « La mort n'existe pas », un film qui explore en animation les réflexions sur la légitimité de la lutte armée pour défendre une cause, ici le combat contre le dérèglement climatique.
Réussir d'amener une fable philosophique, réalisée de manière très artisanale, en animation, avec des choix esthétiques très radicaux, mais assez impressionnants visuellement, sur un sujet comme ça, des jeunes personnages qui se questionnent sur la pertinence de l'activisme politique, des conséquences que ça peut avoir sur une vie individuelle. Bon, c'est quand même assez rare de voir ça en animation.
Il y en a au moins 5 au service qui sont pas armés. Plus les 2 vieux, là, ça nous laisse au maximum 1 garde chacun. C'est risqué, c'est faisable.
Et c'est le 3e film d'animation du réalisateur québécois Félix Dufour-Lapeyrière.
C'est un médium très puissant, exigeant, qui combine les capacités d'expression du dessin, de la peinture, de la couleur, qui a une forme d'artificialité qu'il faut dépasser. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans l'artifice avec le cinéma d'animation. Personne ne croit que c'est vrai, en fait. Ça me plaît d'essayer de déployer sur des formes longues, des récits, des images qui relèvent vraiment de cette économie très spécifique.
C'est aussi un film d'animation qui fera l'événement de la Semaine de la Critique. Pour la clôture, mercredi prochain, Avakaen a choisi un premier long-métrage de la japonaise Momoko Seto, un film intitulé Planète.
Vraiment, c'est un film d'animation très singulier, puisqu'on est à hauteur d'Aken de pissenlit et d'arriver à nous faire vivre des émotions pleinement humaines à travers le végétal. C'est un film complètement psychédélique, c'est vraiment une expérience, mais c'est surtout une fable écologiste qui nous rappelle combien il faut protéger le vivant.
Une bonne édition pour l'animation donc, sans doute portée par le succès l'an dernier de Flo, l'épopée d'un chat noir dans un monde submergé qui, après sa première cannoise, avait remporté un César et un Oscar. Sophie Torlotin, Boris Vichit, Cannes, RFI.
C'est la fin de cette demi-heure d'information ensemble. Dans un instant, c'est Simon Bourtembourg qui prend le relais pour Afrique Midi. Merci beaucoup à Charlotte Hydrac, à la rédaction en chef, Arthur Geoffroy, à la réalisation dans la régie. Merci beaucoup d'écouter RFI. Vous pouvez tout retrouver aussi sur l'application RFI Pure Radio.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le pétrole et le gaz sont-ils des énergies incontournables au développement de l'Afrique et de son industrialisation ? La Côte d'Ivoire et le Sénégal exploitent de nouveaux gisements prometteurs. Nous donnons la parole à leurs promoteurs à l'occasion de l'Africa CEO Forum à Abidjan.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure, à 23h10 TU.